Notre Dieu, notre Père, nous voulons te nous présenter devant toi. Faire comme Marie. Marie, au moment où Jésus va les visiter avec sa sœur Marthe, Marie va s'asseoir et elle va écouter. Marthe va s'énerver, va dire, mais Seigneur, est-ce que ça t'offusque pas? Et le Seigneur va dire, Marie, Marthe, 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 t'agites pour peu de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Permets-nous, Seigneur, de choisir la bonne part, de s'asseoir simplement à tes pieds et de t'écouter, Seigneur, et de recevoir de toi tout ce que tu as à nous dire ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ta parole au nom de Jésus. Amen. Un Thessaloniciens, chapitre 1, non, pardon, 2, le verset 13. J'entends encore du bruit de GSM ici, non? Non, je me trompe. Nous allons juste partir sur ce court texte. C'est pas un long. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu dès qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà le texte. Le thème, c'est gagner grâce à la parole de Dieu. Hier, ma fille Anaëlle jouait son premier match de basket, catégorie poussin. Et comme je lui ai promis de l'accompagner pour voir son match, évidemment, j'y ai été. C'était trop mignon de les voir, elle et ses petites copines, se débattre avec la balle, et vraiment, voilà, apprendre, quoi. Apprendre, faire leurs premiers efforts dans le basket. C'était mignon aussi de voir que certains de ces enfants allaient dans la direction de leur propre camp pour aller marquer dans le camp. C'était aussi très, très intéressant de voir. Mais bon, ça s'apprend, hein. C'est le début, c'est un peu dur, hein. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'attitude du coach. Le coach, malgré le jeune âge de ses enfants, eh bien, il était en train de les driller à gagner. Il les poussait à gagner, mais il faut marquer, il faut... Je purée. Mais ils sont tout petits, ils connaissent encore pas le métier. Mais on les pousse déjà à gagner. Je dis, waouh, gagner le match. Malgré leur peu de connaissances, peu de maîtrise, gagner. Et je me suis dit, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Quelle est l'entreprise humaine qui travaille pour perdre? Aucune. Aucune entreprise ne travaille pour perdre. Aucun projet que l'homme fait, il le fait pour perdre, pour échouer. Non, non. Tout ce que l'homme fait, il le fait pour gagner, pour réussir. Les études, on ne fait pas les études pour échouer. Le travail, on ne commence pas un boulot pour se faire virer le lendemain. En tout cas, pas volontairement. Hein. Les affaires, on ne fait pas des affaires pour dire, voilà, je vais faire une perte, mais je fais quand même l'affaire. Le mariage, on ne se marie pas en disant, tiens, je me marie, je tape mon chrono, dans 5 jours, je divorce. Bon, il y en a, mais ce n'est pas le fait humain normal. Les relations amicales, même chose. Je commence pas une amitié avec quelqu'un en disant « Ouais, je vais le bousiller cette amitié-là dans les jours qui vont venir. » Non, 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 non. Pire encore, l'échec nous laisse souvent des traces psychologiques terribles. Il y a des gens, à cause de l'échec, ils sont marqués dans leur vie. Des gens qui deviennent renfermés, aigris, qui n'osent plus prendre des initiatives parce que « Waouh, j'ai peur, j'ai peur. » Pire encore, il y a des gens qui n'osent rien entreprendre par peur de l'échec. L'échec n'est pas une option dans la tête de l'être humain. Cette réalité dans la vie humaine, c'est la même réalité dans la vie spirituelle. Dans l'entreprise divine aussi, Dieu s'attend à ce que nous gagnions. Il nous embarque dans le camp des gagnants. Dieu veut que nous soyons des gagneurs. Mais pour cela, il faut que nous ayons une mentalité de gagneur. Vous connaissez les grands champions à qui la chance sourit juste parce que c'est un champion. Eh bien, à un moment donné, il doit rater son coup, va, il le réussit. Il dit, waouh, mais comment il a fait? Mon fils David n'est pas là, il serait intarissable avec Ronaldo. Il serait intarissable parce que pour lui, Ronaldo peut même fermer les yeux et faire son match. C'est un champion. Il réussira tout ce qu'il fait parce que c'est Ronaldo. Dieu nous veut des gagneurs, avec une mentalité de gagneur. J'aimerais, peut-être juste pour montrer l'exemple qui est dans la Bible qui montre cela, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il déclare. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. » Sa motivation est là. Je veux gagner Christ. Je ne veux pas gagner le travail avec Christ. Je veux gagner Christ. Et il va même plus loin, verset 12. Il va même ajouter. Il va dire, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, non, ou que j'ai déjà atteint la perfection, non, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il gagne, il veut gagner, et il n'arrête pas. Cours, cours, pousse, pousse. Il veut gagner, il veut le saisir. Il persévère dans cette tâche. Quelle était la motivation de Paul? Pourquoi est-ce que Paul, et à quoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui motive Paul, pardon, à pouvoir courir comme ça, chercher à gagner? Qu'est-ce qui le motive? Si vous lisez le chapitre 3 simplement de Philippiens, vous allez voir qu'il y a juste un mot qui va vous sauter aux yeux. Il le fait parce qu'il est passionné par Dieu. Dieu est devenu sa passion. Il est devenu son, je ne dirais pas son lobby parce que ça c'est faible, mais il est devenu sa passion. C'est le motif de sa vie, c'est le but de sa vie, c'est pour Dieu, parce que c'est Dieu qui compte le plus. Dieu est devenu sa passion, et c'est pour cela qu'il veut gagner. Est-ce que nous les chrétiens, nous gagnons quoi? Quel est le but de gagner pour nous les chrétiens? Qu'est-ce que nous cherchons à gagner? Vous venez tous les jours ici, vous cherchez à gagner quoi? Vous êtes chrétien, vous cherchez à gagner quoi? La réponse de Paul était toute simple, je cherche à gagner Christ. C'est-à-dire d'avoir une intimité, une relation de plus en plus profonde avec lui, qui m'incite, qui me propulse, qui me pousse de plus en plus à vivre ma vie chrétienne. Il y a aussi cette dimension, aussi, il ne le dit pas ici, mais au verset 10, il avait déjà dit ça, c'est qu'il y a aussi cette dimension qu'il est aussi motivé pour travailler pour Christ et gagner avec Christ. Gagner quoi? Un, le salut des âmes. C'est l'apôtre, c'est l'implanteur, c'est celui qui annonce l'évangile, qui prêche, c'est un évangéliste. Il veut gagner des âmes pour Christ parce qu'il sait que ça, c'est ce que Dieu veut. Deuxième chose, il le sous-entend aussi dans cet épître. Qu'est-ce qu'il veut gagner? Il veut gagner aussi en témoignage de vie. Que sa vie soit une vie telle que, waouh, quoi. Les gens regardent et disent, ah oui, si je cherche comment être un chrétien, voilà un exemple. Voilà un modèle pour moi. Gagner pour Dieu. Gagner à la fois dans cette relation profonde et intime avec Christ qui nous transforme en profondeur. Mais gagner aussi dans l'engagement pour lui, dans le travail qu'on fait pour lui. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un titre dans l'église pour travailler. Je peux travailler dans l'église en ramenant des gens dans l'église. J'ai évangélisé mes potes. Je les emmène dans l'église. Je peux travailler avec des gens de l'extérieur, leur parler la parole de Dieu, les faire grandir spirituellement, prier avec eux, et puis les emmener à l'église. Pas besoin nécessairement d'avoir un boulot à l'intérieur de l'église pour faire. Bien sûr, tant mieux si on a un travail dans l'église, mais pas nécessaire. Je travaille avec Dieu, je travaille pour Dieu, peu importe qui je suis, et peu importe où je suis, peu importe les moyens que j'ai, peu importe mes capacités, je peux travailler pour Dieu. Qu'est-ce qui doit me motiver, à l'instar de Paul? La passion. Je ne vais pas vous décrire les gens passionnés. Il suffit de voir les supporters d'un club de football pour voir les passionnés. J'ai un membre de l'église d'Auvelay, où j'étais avant, qui était fan de Standard. Ce gars a fini par créer un club de fans. Du lundi au samedi, il s'habillait toujours en survêtement Standard. J'ai rarement vu cet homme habillé autrement, sauf le jour de son baptême. Toujours. Et il me raconte, quand il me montre son univers, son ordinateur, il est bourré de messages de Standard Men. Ils discutent entre eux, ils échangent. Il spécule sur les joueurs. Quand on va faire un mercato, mais attendez, lui connaît mieux que ceux qui achètent les joueurs. Hein? Ah oui, il connaît tel. C'est sa passion, c'est sa vie. Si Dieu devient notre passion, waouh. Alors je vais rappeler aussi une autre chose. J'ai rappelé que dans la vision avec laquelle nous voulons travailler, que le plus important, ce n'est pas le résultat que nous avons. Parce que le résultat dépend de Dieu. N'oublions pas ça. C'est une entreprise qui n'est pas humaine. C'est une entreprise avec Dieu. Le patron, c'est Dieu. C'est lui qui mène les choses. C'est lui qui regarde et qui dit oui, voilà. Moi, je vois ici que oui, ça, voilà. Et qui utilise le résultat comme il veut. Mais notre tâche à nous, c'est quoi? Notre tâche à nous, c'est de travailler de manière à rendre la victoire, le succès, la réussite possible. Ça, c'est notre boulot. Le résultat dépend de Dieu. C'est un peu comme un cultivateur. Quelqu'un qui plante. Il plante sa semence. Mais pour que la semence puisse croître et germer, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend des éléments de la nature. Nous avons cependant la tâche. Il est là, elle est là sa tâche, qui est de planter. Il doit le faire, c'est son boulot. Il doit accepter de brûler, que le ciel le brûle pendant qu'il est occupé à bêcher, etc. Il doit faire ce boulot-là. Mais le résultat après, c'est le Seigneur. Il doit planter intelligemment. Il ne va pas se dire que, tiens, nous sommes dans la période sèche, où la terre est sèche, elle ne produit rien, mais ben, je vais quand même faire quand même, parce que ça ne dépend pas de moi. Non! Il va le faire intelligemment. Il va le faire de manière à ce que, quand il va planter, il ait le plus possible des résultats. Mais les résultats dépendent de Dieu. Travailler de manière à rendre possible le résultat. Travailler de manière à ce que Dieu nous fasse réussir notre entreprise. Comment cela est possible? Eh bien, à condition de nous conformer à la ligne de conduite de Dieu. Rien à faire. Je ne peux pas réussir un travail pour Dieu, je ne peux pas réussir ma vie avec Dieu, si je ne me conforme pas à la ligne dans laquelle Dieu me demande, la ligne que Dieu me demande de suivre, les règles que Dieu me demande de respecter. C'est le cas, n'est-ce pas, avec Josué, et je vais vous proposer aussi cette lecture-là. Josué, chapitre 1, verset 7 et 8. « Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Pourquoi? Dans quel but? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors quoi? Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'était de quelle réussite il s'agissait ici pour Josué? La conquête de Canaan. Mais il dit, dans tout ce que tu entreprendras, dans tes entreprises. La parole de Dieu, d'après cette déclaration, on peut s'en servir comme un code de la route, comme une boussole, comme un moyen qui nous aide à réussir ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est cela que j'aimerais partager avec le texte de 1 Corinthiens 13 que nous avons, 1 Thessaloniciens 2, 13 que nous venons de lire. Tu peux le remettre. D'une manière générale, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul félicite les Thessaloniciens. Il leur félicite pour leur foi et pour leur engagement pour la cause de l'Évangile. Il dit qu'il admire la façon dont ils reçoivent la parole de Dieu. Il admire ça. Il trouve ça magnifique. Et ici, au verset 13, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il admire ça. Il admire ça parce qu'il y a une attitude avec laquelle ils reçoivent la parole de Dieu. Eux aussi ont gagné, puisque si vous lisez le texte de 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, vous allez voir qu'ils ont eu de l'impact. Après la prédication de Paul qui s'est faite dans la douleur, Paul a été chassé, il a été obligé de fuir Thessalonique. Parce que ça devenait chaud, on le cherchait, on voulait le tuer. Mais il a prêché, et les gens se sont convertis, et ces gens qui se sont convertis ont été tellement passionnés par Dieu qu'ils se sont même engagés pour soutenir d'autres églises. Et Paul dit, ouais, vous avez été gagnants. Et il dit ça, c'est parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Non comme une parole d'homme. Non pas comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Autrement dit, la réussite dans les affaires de Dieu et dans notre vie en tant que chrétien, comme dans le cas des Thessaloniciens, et fonction du fait qu'à travers la parole qui a été enseignée, ils ont cru en Dieu. Ils n'ont pas vu dans la parole des hommes, mais ils ont vu Dieu. Ils ont cru en Dieu. Ils n'ont pas regardé au prédicateur. Ils n'ont pas regardé à celui qui leur parle. Ils n'ont pas regardé à quelle école de théologie figuraient les propos qui ont été écrits. Ils ont regardé à la parole de Dieu. Ils ont ouvert leur Bible. Et ils ont lu dans la Bible. Ils ont supplié Dieu de les éclairer sur ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, de nos jours, vous remarquerez que, hier encore j'ai fait l'expérience en posant des questions à une personne, vous remarquerez que finalement, que retiennent les gens de la Bible? Ils retiennent les prédications qu'ils ont écoutées. Et ils retiennent ce que les gens leur ont dit dans les prédications. Or, comprenez-moi bien, hein? Je suis pas en train de dire que n'écoutez pas ce que je dis, hein. Mais les gens ne mettent pas la connexion entre ce qui est dit et ce que dit la parole de Dieu, de façon à vérifier réellement si ce qui est dit correspond avec ce qui est écrit. Et si, dans ce sens-là, elle peut m'apporter quelque chose. Aujourd'hui, les gens se fient beaucoup au discours des hommes. Ils croient aux hommes. Ils croient à ce que les gens racontent. Des grands prédicateurs aujourd'hui, surtout aux États-Unis, et en Afrique aussi, malheureusement, ils ont du succès parce que c'est eux les hommes de Dieu. C'est eux la bouche de Dieu. C'est ce qu'eux disent qui est important. Alors quelqu'un va dire, voilà, désormais, pour être baptisé du Saint-Esprit, onction d'huile, hein, tu achètes de l'huile, ce que je vous dis, c'est du vécu, hein, c'est du vrai. Hein. Tu achètes de l'huile d'olive extra pure, 100%, et puis séance de rencontre en avant, Maintenant, c'est le moment. Tout le monde met son huile sur la tête, en avant. On met l'huile sur la tête. On reçoit le Saint-Esprit. Oh, très bien. Mais c'est écrit où dans la Bible? Et de plus en plus, on a des cultures qui se développent, des habitudes qui se développent sur, au nom de la parole de Dieu, mais qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que l'homme fait confiance à l'homme et non pas à Dieu. La parole de Dieu, si elle veut être efficace et puissante dans nos vies, elle doit être étudiée d'abord dans sa réalité à elle. Et lorsque je l'étudie dans sa réalité à elle, j'essaie d'obéir à ce qu'elle me demande. J'essaie de me conformer à ce qui est écrit. J'essaie de voir Dieu dans sa parole, d'avoir un respect de la parole de Dieu, comme si c'était Dieu qui me chuchotait les paroles lui-même. Mais quand la parole de Dieu n'est qu'une simple parole, que je peux lire, ouais, c'est vrai, alors elle fait l'objet de discussions. Vous voyez, il y a des gens qui discutent toujours. Discutent toujours. Quelque chose, ah mais non, je ne suis pas d'accord. Ah mais oui, ça me... Oui, oui. Parce que je ne m'efforce pas de regarder. Et si c'était Dieu qui me parlait, clairement. Ok, l'autre a interprété, il a ajouté des choses. Mais à travers ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est de Dieu là-dedans, qui est conforme à la parole de Dieu? C'était l'attitude des gens de Béret, n'est-ce pas? Les gens de Béret, eh bien, on leur prêchait. Le gars qui leur prêchait, ils écoutaient. Oui, très sérieusement. Mais après, ils vérifiaient quand même que, ah oui, le gars nous a dit que dans la Bible, il est écrit qu'il faut mentir. Ah oui, il faut mentir. Ah oui, il faut mentir. Je regarde un peu, je cherche dans la Bible. Est-ce que c'est écrit ça? Ah, excusez-moi. Non, c'est le contraire qui est écrit. Il ne faut pas mentir. Cherchez Dieu dans sa parole et non pas quelqu'un. Si nous nous efforçons de faire ainsi, de rechercher Dieu, de voir Dieu et de rechercher ce qu'il veut nous dire dans sa parole, alors la parole devient efficace pour nous faire réussir notre entreprise. Ce qui nous bloque et rend inefficace la parole, c'est le fait que nous restons attachés, scotchés sur ce qui est dit, ce qui est interprété, ce qui est enseigné, ce qui est ajouté. Ce qui est ajouté n'est qu'un complément de ce qui est écrit et ne peut être bon que dans la mesure où elle correspond à ce qui est écrit. Tout ça, c'est pour dire que le plus important pour nous, c'est de s'attacher à la parole de Dieu et de la lire de manière à y trouver Dieu dedans. Moi, personnellement, c'est l'effort que j'ai toujours fait. C'est dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi par ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que je sois juste avec ce que je lis, avec ce que je comprends. Que ce que je comprends corresponde vraiment avec ce que tu veux vraiment me dire. Et puis ensuite, supplier Dieu pour que j'applique ce qui est écrit. Parce que ça sert à rien de lire ce qui est écrit et puis ensuite de m'en aller en disant, bon oui, je sais qu'il y a ça, je sais, oui, oui, je sais. Mais j'applique. Et mes frères, mes sœurs, si nous appliquons ce que Dieu a dit, si nous vivons selon ce que Dieu demande, alors nous allons voir le déploiement de toute sa puissance dans nos vies. Est-ce que vous croyez vraiment à la puissance de Dieu? Vous croyez que Dieu est puissant? Ah, oh, vous dites vite oui, hein. Est-ce que quand il y a les épreuves là, quand vous avez dur là avec certaines mauvaises habitudes qui sont là, qui veulent pas partir, quand il y a la maladie qui signe et persiste, quand il y a des épreuves qui vous suivent et qui s'enchaînent, est-ce que Dieu est-il encore puissant? Répondez à ma question. Oui! Waouh! Je suis en face des chrétiens ici. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu reste puissant indépendamment des circonstances par lesquelles nous passons. Et si je confesse cela, eh bien je suis parti pour véritablement vivre la dimension de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu accomplit toujours ses promesses? Mais parfois, ça prend du temps. Je prie pour le mariage 1 an, 2 ans, 10 ans. Je connais une amie qui est dentiste, qui a presque le même âge que moi, qui a demandé depuis sa jeunesse, alors qu'on était encore à l'université, ça fait 20 ans qu'elle a demandé rien. Est-ce que Dieu tient-il ses promesses? Voyez, c'est là qu'on entre dans la dimension d'une véritable spiritualité avec Dieu. Être fidèle à Dieu par-delà tout ce que je vis. Et ça, pourquoi je parle des promesses? Pourquoi je parle de la puissance de Dieu? Parce que nous allons le découvrir dans sa parole. C'est dans sa parole. Les promesses de Dieu sont écrites dans sa parole. Sa puissance est manifestée dans sa parole. Et lorsque je commence à regarder Dieu dans sa parole, c'est tout différent. Mon attitude est différente. Je suis plus en guerre avec mes frères et sœurs. Je suis plus en guerre avec les gens. C'est pas les gens qui sont un problème pour moi. Moi, j'ai à regarder à Dieu. Et j'ai à me conformer à ce que Dieu me demande. Si Dieu me demande d'être en paix, malgré les circonstances impossibles, je suis en paix. Point barre. Il est temps, mes frères, il est temps que nous sortions de cette pauvreté spirituelle dans laquelle on se trouve. Oh oui, je sais que les béatitudes disent « heureux les pauvres en esprit ». Mais cette pauvreté dont les béatitudes parlent, ce n'est pas cette pauvreté dans laquelle nous sommes, nous. Nous, notre pauvreté à nous consiste à nous laisser appauvrir. C'est différent. Le pauvre qui vient en disant « Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Tel que je suis. » Je viens à toi. C'est tout différent de celui qui dit « Oh, je laisse tout aller. Je deviens pauvre. Je m'enrichis, je m'appauvris. » Un peu comme ces élèves qui refusent la scolarité et qui deviennent de plus en plus bêtes. Et on se rend compte que dans 4-5 générations, mais on aura vraiment des... c'est un mot quand même, on va rester poli, quoi. Malheureusement, mais nous le voyons, moi je suis enseignant, je le vois dans les écoles, des enfants qui de plus en plus refusent d'apprendre, et des parents qui de plus en plus encouragent leurs enfants à refuser d'apprendre. Et alors, cet enfant, tu le retrouves, tu l'as en première secondaire, il faut absolument rien, on a pitié de lui, on le fait passer en deuxième secondaire, il faut absolument rien, il ne veut pas étudier, et puis tu le perds de vue, tu le croises dans la rue un jour, tu fais quoi? Ah, je suis à l'école technique. Ok, très bien. Et puis, un an après, tu le retrouves, ah, je suis un professionnel. Ah, un an après, tu te dis, je n'étudie plus. Tu fais quoi? Je fais quelque chose. Un contrat, je sais pas moi, un contrat genre, je sais pas moi, le contrat de travail, là. Et puis, un an après, tu le retrouves, et même le contrat de travail, il a perdu. Il fout rien. Et il est très philosophe, hein. C'est la société qui est méchante, hein. C'est les autres qui ont rien compris à lui, hein. Ça, c'est s'appauvrir. Mes frères, nous faisons exactement la même chose avec les choses de Dieu. Nous nous laissons appauvrir. Quand je ne lis plus ma Bible régulièrement, que je ne suis pas rigoureux avec ça, quand je me contente juste d'écouter le message, la prédication et c'est tout, ça s'arrête là, je fais quoi? Je m'appauvris. Quand je ne prie plus. Non? De temps en temps. De temps en temps, quand même. Soyons un peu chrétiens, quand même. Mais pour le reste, j'ai pas une vie de prière, j'ai pas un engagement dans la prière. Je fais quoi? Je m'appauvris. Quand la passion dans mon cœur pour Dieu se perd, Dieu passe au second plan, les autres choses de la vie deviennent importantes. La télé, attention, le film que je dois regarder le soir. Et je me fâche si quelqu'un vient m'empêcher, hein. Et si quelqu'un me téléphone, oui, au revoir, boum, parce que je vais regarder mon film. Je m'appauvris. Je laisse d'autres choses venir dans ma vie. Je deviens pauvre. Il est temps de sortir de cette pauvreté spirituelle et de marcher dans la victoire que Dieu a acquise à la croix à travers Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps de se lever, d'apprendre à voir Dieu dans toute sa grandeur, dans la parole. De la lire, non pas comme un simple bouquin qui m'apprend 2-3 choses utiles. C'est jamais, hein? Je peux frimer avec les gens, quoi. Dis, est-ce que toi, tu connais la Syrie?
Eh bien, moi, je sais Naziréa, Nani, la mère.
Et toi, tu connais le Lévira. Et tu connais pas le Lévira.
Nani, la mère, moi, je sais.
Et ça n'a aucune prise dans ma vie. Rien. Je sais juste l'intellectuel, c'est tout. Non. Il faut qu'on apprenne à vivre la parole de Dieu pour ce qu'elle est et qu'elle nous aide à grandir spirituellement. Je dis pas attention, hein. Je dis pas que vous ne le faites pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je souhaite que cela devienne quelque chose qui rentre dans notre motivation en tant que chrétien. Que quand j'ouvre la Bible, moi je suis parfois frappé de voir que certains, quand ils ouvrent la Bible, ils lui donnent même, ils l'embrassent même. Vous avez déjà vu ça, hein? Les gens qui embrassent même leur Bible tellement ils aiment, ils chérissent leur Bible. Il y en a un qui m'avait dit ici dans cette église, il n'est plus là, mais il m'avait dit un jour qu'il était choqué parce que il m'a vu déposer la Bible par terre. Je n'allais pas le faire. C'est sacrilège. Bon, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie de la Bible, hein? Non plus. Mais j'apprécie le fait que c'est quelque chose de très respectable pour lui, quelque chose de précieux pour lui. Les Thessaloniciens ont réussi parce que ils ont reçu la parole de Dieu pour ce qu'elle était vraiment. La parole de Dieu. Et pas une théorie humaine. Pas une théorie théologique. Pas une approche du luthérianisme, du calvinisme, du, je sais pas quel autre philosophe là, Zwingli, je sais pas moi, Zinzendorf, je sais pas qui. Voilà, ils n'ont pas reçu comme cela, ils l'ont reçu comme la parole de Dieu. C'est-à-dire comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à travers cette parole. Et quand je commence à prendre cette parole comme si c'était Dieu, et que je commence à me dire, c'est lui qui est à l'œuvre, alors je peux croire à sa puissance, je peux croire à son action, et je peux le voir en œuvre. Il est temps de saisir les promesses de Dieu. Pour vous personnellement, dans vos vies personnelles, dans ma vie personnelle. Mais il est temps aussi de saisir les promesses de Dieu pour son Église aujourd'hui. Croire encore que l'Église aujourd'hui peut se relever. Croire aujourd'hui que l'Église peut encore s'exprimer dans la société. Croire aujourd'hui que le témoignage chrétien est encore puissant pour que les gens l'entendent. Croire que le Seigneur est assez puissant encore aujourd'hui pour toucher les cœurs et changer les vies. Parfois, on n'y croit plus, hein. On évangélise timidement parce que, peut-être que Dieu ne le fera pas. Il est temps de vivre selon les prescriptions de cette parole afin d'avoir du succès. Cela est possible. Cela est possible pour tous ceux qui croient en Dieu et qui sont passionnés par lui. Demandons au Seigneur, Seigneur, enflamme-moi de toi. Donne-moi un cœur qui brûle au-dedans de moi pour toi. Et ce cœur me poussera à lire la Bible. À la lire d'une manière passionnée, me poussera à prier d'une manière persévérante, avec une foi totale que Dieu fera ce que je lui demande. Dans la mesure où il est d'accord, mais il le fera. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons être victorieux pour toi. Être victorieux, ça ne veut pas dire nécessairement se vanter, commencer à crier partout que nous gagnons, mais être victorieux, c'est notre manière de faire avancer ton royaume. À notre petit niveau à nous, à la fois en tant qu'individu, mais aussi à notre petit niveau en tant qu'église locale, ici à Ortigny. Seigneur, accompagne-nous. Aide-nous, Seigneur, dans cette tâche. Au nom de Jésus. Amen.